Bien alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette médiathèque. Je remercie la directrice, je crois maintenant, de la médiathèque de bien vouloir nous accueillir et de nous prêter ses locaux. Je vous remercie d'être venu, on est heureux de vous accueillir et je le fais au nom de toute l'équipe de la librairie Jean Calvin. Une grande partie, même la totalité des libraires de la librairie Jean Calvin d'Alès sont ici, présents. Et nous remercions évidemment Jean-Paul Chabrol d'avoir accepté notre invitation ce soir pour traiter d'un sujet délicat et qui a été, pour ainsi dire, jamais traité, sinon une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce soir, nous inaugurons notre nouveau cycle de conférences, puisque vous savez que la librairie Jean Calvin a l'habitude d'organiser un cycle de conférences tous les ans, en partenariat avec la médiathèque d'Alès, ici. C'est pourquoi la plupart de ces conférences ont lieu ici, dans cet amphithéâtre, même si parfois, pour des raisons de calendrier, eh bien, elles ne peuvent pas se dérouler ici, elles ont donc lieu à la librairie ou alors au Capitole. Et cette année, nous consacrons donc notre cycle de conférences au protestantisme et la guerre. Autrement dit, la question du rapport entre le protestantisme, les protestants et la guerre. Alors c'est une question ou une problématique qui est souvent vite résolue dans les consciences, puisque bien souvent, pour les protestants, eh bien, la question du rapport à la guerre se décline en deux mots, camisard et juste. Ce sont les camisards, les protestants de la guerre, c'est la guerre des camisards. Et puis, pour la Seconde Guerre mondiale, je dirais, pour le plus grand public, pour simplifier, évidemment, peut-être que des érudits, eh bien, sont conscients que les choses sont plus complexes, évidemment. Mais, disons, dans la mentalité classique, le rapport du protestant à la guerre, c'est la guerre des camisards, et puis ce sont les justes. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie, on le sait, des protestants français ont contribué au sauvetage des juifs, et ce sont ceux donc qu'on appelle les justes, qui, au prix de leur vie, ont accepté de sauver un juif en contre aucune contrepartie. Voilà. Il n'empêche que le rapport des protestants à la guerre est bien plus complexe que cela. On va peut-être déjà le voir ce soir avec cette comparaison. Mais on tentera, au cours de cette année, d'aborder aussi d'autres thématiques, puisque vous comprenez bien que ces deux mots, camisard et juste, eh bien, ont une consonance très positive dans la conscience. Les camisards, eh bien, ce sont ceux qui ont été opprimés par un pouvoir absolu, le pouvoir royal. Et puis les justes, c'est ceux aussi qui ont résisté à la tyrannie pour arracher une minorité persécutée, eh bien, à l'Allemagne nazie et aux troupes allemandes. Cela dit, eh bien, le protestantisme et la guerre, c'est aussi, au XVIIe siècle, la capacité des protestants à intégrer, y compris dans le sermon protestant, c'est-à-dire y compris dans la prédication, la justification de la guerre, et notamment des guerres de religion. Et puis, ce sont aussi des guerres coloniales. Bertrand von Rundbeck viendra nous parler, il vient de publier un ouvrage sur l'Amérique, les premiers moments des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas encore les États-Unis d'Amérique d'ailleurs, et il nous montrera justement comment le protestantisme aussi a su intégrer très tôt finalement ce qu'on appellera plus tard des guerres coloniales, et donc la conquête, et puis l'anéantissement de certaines tribus indiennes. Donc le rapport des protestants à la guerre n'est pas qu'un rapport positif, loin de là, et ce sera aussi le but de ces conférences, de montrer par exemple que pendant la guerre 14, les protestants comme un seul homme, eh bien, se rangent derrière tout le patriotisme français, puisque en août 14, non pas que les Français vont tous la fleur au fusil, mais il y a une espèce d'union sacrée, on le sait, et les protestants se rangent derrière. Il faudra un Albert Schweitzer pour prendre position contre, et d'ailleurs être enfermé aussi par l'État français. Voilà, donc j'en termine avec cette présentation de notre cycle de conférences. Mais au cours de cette année, on essaiera de montrer que cette thématique est complexe. Alors ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Jean-Paul Chabrol, qui vient traiter d'un sujet qui n'a jamais été traité, sinon, à ma connaissance, dans un article en 1981 par Philippe Joutard dans Vendée et Chouannerie. Et sinon, eh bien, très étrangement, ces deux guerres qui ont marqué la conscience collective de ces deux régions, la Vendée et les Cévennes, n'ont jamais été comparées. Alors pour moi qui suis vendéen d'origine et qui suis cévenol d'adoption, puisque j'habite ici maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, eh bien c'est quelque chose qui m'a toujours étonné et je me réjouis que Jean-Paul ait accepté ce challenge, comme on dit aujourd'hui, ce défi, de relever ce défi en nous présentant cette conférence ce soir. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée. Jean-Paul nous présente donc son étude, puisqu'il ouvre ici la voie à la suite de Philippe Joutard, mais il va l'approfondir donc pendant 50 minutes, et puis après quoi nous aurons un moment de questions.
Merci, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. J'espère relever le défi, et donc je remercie Franck Bellois, qui m'a demandé au mois de septembre dernier si je pouvais faire une conférence sur ce sujet. J'ai dit oui, un peu en tremblant, puis finalement, en préparant ma conférence, je me suis rassuré, je vous dirai dans un instant pourquoi. Donc je remercie également la directrice de la médiathèque et tout le personnel ici de nous avoir accueillis. Voilà. Donc le titre est posé, « Guerre de Vendée et guerre des Camisards, une histoire parallèle ». Et un parallèle en effet entre ces deux guerres si éloignées dans le temps, c'est osé, mais c'est également très stimulant intellectuellement. Alors je vous rassure, hein, je suis un petit spécialiste de la guerre des Camisards, et encore, et je ne suis absolument pas spécialiste de la guerre des Vendées. Par contre, j'ai eu de la chance de faire mes études à Aix-en-Provence à partir de 1966, et donc j'ai eu d'excellents professeurs, des maîtres, dont certains sont devenus des amis. Et plus précisément, donc, je dois dire toute ma gratitude envers Philippe Joutard, et pour la Révolution française, envers Michel Vauvel, qui est encore à l'heure actuelle, avec Jean-Clément Martin, un des plus grands spécialistes de la Révolution française. Et ce professeur que je vénérais silencieusement, eh bien, ce professeur est devenu un ami, et aujourd'hui presque un ami intime. Donc on va avoir une pensée pour Michel Vauvel. Voilà, donc le défi posé par Franck, il est très intéressant intellectuellement, et il permet en effet de réfléchir sur la responsabilité des États, qu'ils soient monarchiques ou républicains ou révolutionnaires, la responsabilité des États quand ils heurtent les consciences, notamment dans le domaine des croyances religieuses. Alors, c'est un sujet que je vais décliner en trois parties. C'est un sujet complexe, mais je vais essayer d'être pédagogique, je vais essayer d'être simple. Et d'abord, dans un premier temps, je vais rappeler très rapidement ce qu'est la guerre des Camisards. Donc la guerre des Camisards, elle est surtout et avant tout intrinsèquement un soulèvement religieux. Alors, un bref rappel chronologique pour ceux qui ignorent le sujet. Cette guerre s'est déroulée donc entre 1702 et 1704. Ça, c'est l'essentiel de la guerre. Et il y a eu deux autres tentatives de soulèvement en 1705 et en 1709-1710, deux tentatives qui ont échoué. Donc, comme je viens de le dire, une cause et une seule, elle est religieuse. Et en effet, cette guerre est la conséquence lointaine de la révocation de l'édit de Nantes, une révocation donc a été prise par un souverain absolu et qui est le résultat également d'une politique absolutisme qui ne tolère pas un christianisme autre que celui représenté par la religion du prince, par le catholicisme romain. Le but des Camisards, je schématise beaucoup, je suis même un peu caricatural, mais le but du soulèvement Camisard, c'est d'obtenir la liberté de conscience et la liberté de culte. Certains Camisards ont rêvé à un improbable rétablissement de l'édit de Nantes. Mais enfin, ce que voulait quand même cette population réformée qui s'est soulevée, c'est au moins obtenir la liberté de culte, soit au sein des familles, soit publiquement. La guerre des Camisards, c'est une révolte populaire. C'est une révolte populaire. Les Camisards sont essentiellement des paysans et des artisans. Et cette guerre, elle est conduite par des chefs, pratiquement tous prophètes et tous issue du peuple, à quelques exceptions près, par exemple Élie Marion, qui lui a une origine bourgeoise. Pas un seul noble. Pas un seul noble, et ça c'est important pour la seconde partie, pour la guerre de Vendée. Quelques bourgeois seulement, et une masse, je l'ai dit, de paysans et d'artisans, notamment d'artisans du textile. Le peuple des campagnes s'est davantage soulevé que celui des villes, mais en ville, les protestants ont résisté également à leur façon, et très souvent, ils ont été complices des révoltés. La guerre des Camisards, c'est une guérilla qui n'exclut pas quelques combats d'envergure sur un espace limité entre la Lozère, le Mont-Lozère, l'Écosse, les Gaules au nord et la plaine languedocienne au sud. Et cet espace dans lequel s'est développée la guerre des Camisards, il correspond essentiellement au peuplement réformé qui s'est mis en place à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Ce soulèvement sur les marges de ce peuplement réformé, de ce peuplement protestant, ce soulèvement a opposé ici et là les catholiques et les protestants, c'est-à-dire que ce soulèvement s'est transformé ici et là sur les marges du peuplement réformé en une véritable guerre de religion. Ça a été le cas dans l'Usège, ça a été le cas en Vonnage et ça a été ici le cas au-dessus d'Alès, notamment entre les Florentins et les Camisards. Cette révolte, c'est une révolte populaire qui s'inscrit dans un grand nombre de révoltes populaires qui ont marqué la fin du XVIIe siècle et le XVIIIe. C'est une révolte relativement longue, donc 2 ans, hein, pour sa phase la plus active, avec 2 tentatives dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très long pour une révolte populaire. Une révolte populaire, à l'époque de Louis XIV et même après, ça ne dure que quelques semaines, 1 mois au maximum. Et ça, ça a étonné les contemporains. Comment se fait-il que ces gens-là, qui se sont révoltés, aient pu résister pendant presque 2 ans. Donc, une rébellion populaire qui s'inscrit donc dans une durée qui surprend, en effet, le pouvoir politique, le pouvoir religieux et même l'opinion publique internationale, au moins européenne. Et enfin, c'est une révolte qui n'a jamais cessé de marquer les esprits et qui a nourri, vous le savez, ici, dans la région, une tradition orale de longue durée également, une révolte qui a marqué donc la mémoire collective au point d'avoir été, je vais citer un exemple, hein, à l'origine d'un musée, le musée du désert, qui est installé dans la maison de la porte, dit Roland. Et depuis quelques années, vous le savez, eh bien, dans la région, il y a une pièce à succès, la Nuit des Camisards, qui se rattache directement ou indirectement à cette révolte. Voilà. Alors donc, voilà très rapidement ce qu'a été la guerre des Camisards. Si vous voulez en voir sa traduction cartographique, je renvoie au livre que nous avons fait ensemble, Jacques Mauduit et moi-même. Alors c'est la raison pour laquelle je vais peut-être détailler cartographiquement un peu plus la guerre de Vendée, parce que la guerre de Vendée, elle est peut-être moins connue ici en Cévennes. Alors, deuxième partie, donc, la guerre de Vendée. Alors, avant de commencer, une remarque s'impose. Cette guerre ne doit pas être confondue avec le soulèvement des Chouans. Chouans et Vendéens, certes, il y a des rapprochements. Les Vendéens ont parfois combattu aux côtés des Chouans, et certains Chouans sont venus en pays vendéen. Mais ce sont deux révoltes différentes, même s'il y a des points communs. Alors je rappelle très brièvement, hein, très simplement, et de façon caricaturale, ce qu'étaient les Chouans. Donc les Chouans étaient des insurgés royalistes qui combattent au nord de la Loire, on va voir les cartes tout à l'heure, essentiellement dans les dans les régions la Bretagne, le Maine, la Normandie et le nord de l'Anjou. Et la chouannerie, elle est née en octobre 1793 et elle va se poursuivre jusqu'en 1799 et même au-delà jusque dans les premières décennies du 19e siècle. Alors les Vendéens, eux, sont des insurgés qui combattent essentiellement au sud de la Loire et qui sont issus du Poitou, du sud de l'Anjou, du pays de reste breton, etc. Cependant, ça c'est intéressant, les Chouans comme les Vendéens se désignent collectivement sous le nom d'armée catholique et royale. Voilà. Alors, on va localiser très rapidement cette région. Alors, il faut savoir d'abord que cette guerre de Vendée intervient dans un contexte très particulier. C'est le titre ici, « La France assiégée et la France éclatée ». Et cette guerre de Vendée intervient dans un laps de temps, au moins pour son premier développement, en 1793-1794. Alors, la guerre de Vendée, donc, s'inscrit dans les soulèvements, vous voyez, qui concernent l'ouest de la France. Je commente très rapidement cette carte. Quels sont donc les trois grands dangers qui menacent la France à cette époque-là? Tout d'abord, la guerre, vous voyez, dans le nord-est de la France, avec donc la France est en guerre contre l'Angleterre, contre la Hollande, contre l'Autriche. Donc la France est menacée, elle est même menacée d'invasion. Dans le même temps se produit un mouvement fédéraliste animé essentiellement par les Girondins et d'ailleurs qui a très fortement marqué notre région. Ici Lyon, Nîmes, Marseille, Toulon, Bordeaux. Donc ça c'est un soulèvement plutôt politique. Hein. Les Girondins sont opposés aux Montagnards. Les troubles sont particulièrement forts, particulièrement violents. Et bien évidemment la France, hein, non seulement elle est assiégée, mais elle est éclatée. Il y a une guerre civile qui se développe ici dans ces régions. Et dans l'ouest de la France, donc, ces soulèvements, le soulèvement vendéen, et puis ensuite le soulèvement chouan. Et là aussi, on est dans le cadre d'une part de révolte populaire. Hein, le mouvement fédéraliste est plutôt un mouvement urbain, une révolte populaire. Et également, on est dans le cadre d'une guerre civile, puisqu'il va y avoir un affrontement entre ce qu'on appelle les Blancs et les Bleus. Les Blancs, les royalistes, je mets des guillemets, hein, parce que tous ces paysans qui se soulèvent n'étaient peut-être pas, a priori, au départ, royalistes. Ils avaient d'autres motivations, d'autres considérations, plus sociales, voire politiques. Les Blancs d'un côté et les Bleus, qui sont donc les républicains. Alors, je vais maintenant zoomer, comme on dit aujourd'hui, sur la Vendée. Très rapidement, une chronologie. Je suis historien, je suis pas un fanat des dates, mais quand même, il faut rappeler quelques dates essentielles. Vous voyez, les premiers troubles éclatent en Vendée en 1791, en partie, mais je dis bien en partie seulement, parce que ça, c'est important. Sinon, on commettrait une erreur. C'est en partie, ces paysans se lèvent en partie contre la constitution civile du clergé. J'explique. Hein, on oblige, à partir de cette constitution, on oblige le clergé catholique, hein, le clergé tout court d'ailleurs, à prêter serment à la constitution. Or, cette constitution civile du clergé est condamnée par la plupart des évêques, elle est condamnée par le pape, et très rapidement, eh bien, le clergé va éclater. Il va y avoir d'abord le clergé réfractaire, celui qui refuse de prêter serment, donc de prêter serment à cette constitution, et très rapidement, il va être stigmatisé. Et puis, il y a le clergé qui va prêter serment, donc un clergé qu'on va appeler constitutionnel, mais lui, il va se heurter très rapidement, ces prêtres qui prêtent serment, ils vont se heurter à la population catholique qui très souvent les rejette. Alors ce phénomène ici de refus de la constitution civile du clergé, on l'a eu très près de chez nous, entre guillemets, notamment en Gévaudan, plus exactement dans le nord de la Lozère. La Lozère a été à sa façon une Vendée, une petite Vendée. Bon, alors retenez cette date, mais surtout retenez que les premiers troubles, vous voyez, ils éclatent pas en 93, mais en 1791. Et ces troubles sont des troubles paysans, ce sont des révoltes paysannes, ce sont des paysans qui se soulèvent, pour des raisons d'ailleurs beaucoup plus sociale et économique que religieuse. Mais malgré tout, cette révolte paysanne va rejoindre, si vous voulez, le refus de la constitution civile du clergé. Ensuite, ça c'est vraiment l'élément déclencheur, 1793, bon, je laisse de côté la guerre, c'est la fameuse levée de 300 000 hommes. Les républicains ont besoin, en effet, un besoin urgent de soldats, et partout en France, on voit envoyer des chargés de mission, des représentants en mission, pour recruter 300 000 soldats. Or, un certain nombre de paysans, partout en France, et pas seulement en Vendée, même dans le midi de la France, même ici dans nos régions, un certain nombre de paysans sont réticents à s'engager, en effet, dans cette armée. Et donc là aussi apparaissent des réfractaires, c'est-à-dire des gens qui refusent de rejoindre les armées républicaines. Enfin, en 1793, c'est un peu le point de départ, l'origine de cette révolte vendéenne, cette guerre de Vendée, le 11 mars, dans un petit bourg à Machecoul, des républicains sont massacrés par des paysans et c'est le début de l'insurrection vendéenne. Alors, je passe très rapidement sur ces dates, elles sont relativement secondaires. Alors, quand je ferai ma conférence à Cholet, bien évidemment, là, j'insisterai davantage, sinon je me ferai lapider par les Vendéens d'aujourd'hui. Donc, je passerai rapidement sur ces dates, savoir qu'il y a eu alternance de victoires et de défaites dans chaque camp. Et par contre, on va retenir celle-ci. En décembre, entre décembre 1793 et mai 1794, on assiste à la pacification sanglante de la Vendée, qui sont marquées par deux grands événements. Ceux qui ont bénéficié de cours d'histoire sur la Révolution française, même au lycée, naguère, les fameuses noyades de Nantes par Carrier, et surtout les colonnes infernales du général Turon. Bien. Cet épisode est suivi par la chute de Robespierre, que l'on a longtemps accusé d'être responsable de cette guerre. Aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus réticents à en faire l'unique responsable. En 1794, Carrier est jugé et il est exécuté. Et surtout, vous retiendrez 1796, eh bien, deux contre-révolutionnaires vendéens sont exécutés. C'est d'un côté Stofflet et de l'autre Charette. Alors on pourrait dire 1796, c'est vrai, c'est la guerre, entre guillemets, officielle de la guerre de Vendée, mais en réalité, même si la paix revient, jusque dans les années 1830, il y aura des troubles dans l'Ouest, en Vendée, en Bretagne, etc. Et donc il faudra, vous voyez, un très long temps pour que la paix revienne. Alors ces troubles qui subsistent jusqu'en 1830, sont à la fois politiques, religieux, mais également relèvent du grand banditisme. Et ces troubles-là, vous voyez, qui perdurent jusqu'au début du XIXe siècle, eh bien ces troubles-là, dans le nord Gévaudan également, ont existé, même dans certaines régions de la Provence. Voilà. Alors, voilà donc pour la chronologie, mais on ne va pas s'embarrasser de ces dates. Alors, une carte pour localiser donc la Vendée. On parle de guerre de Vendée. C'est parfois un peu abusif parce que bon, la Vendée, vous voyez, c'est ce département, mais ça concerne plusieurs départements. Vous voyez la Loire inférieure, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et ici le département de Vendée. Et vous avez ici sur ce tracé, vous voyez avec ces petits points, la zone qui a été concernée par la guerre de Vendée. Alors, une carte un peu plus fine et récente, je ne sais pas si on voit très bien. Et vous avez ici, en vert, vous voyez la zone qui était contrôlée par les Vendéens avec sa capitale, entre guillemets, Cholet au centre, en 1793. Tout autour, les zones qui ont été violemment disputé entre les bleus et les blancs. Donc ça vous donne, voyez, une idée de l'espace géographique de cette guerre de Vendée. Et en superficie, c'est beaucoup moins étendu que la guerre des Camisards ou la guerre des Cévennes. Voilà. Donc une région qui s'embrase. Alors, cette guerre a été marquée par ce que l'on appelle la virée de Galerne. Alors, Galerne, c'est le nom breton d'un vent océanique, d'octobre à décembre 1793, et une virée qui a marqué les esprits. Plusieurs milliers de Vendéens, entre octobre et décembre 1793, vont franchir la Loire, remonter, et leur objectif, c'était d'atteindre le port de Granville et d'obtenir l'aide des Anglais. Alors ça, c'est intéressant parce que, au temps de l'époque des Camisards, mais pour d'autres raisons et d'autres considérations géopolitiques, les Camisards également ont espéré l'aide des Anglais. Et cela, avant même la guerre des Camisards, parce que dès 1686, on espère que les Anglais, Guillaume d'Orange, viendront délivrer les protestants en France. Alors, cette virée de Galerne, elle est impressionnante. Elle dure donc, je l'ai dit, pendant plusieurs mois. Vous avez ici le tracé. Donc, ces milliers de combattants sont suivis par des dizaines de milliers d'hommes et d'enfants. Et pendant tout leur parcours, hein, ils vont combattre contre les forces républicaines et également à leur retour. Et ils vont être écrasés ici à Savenay, vous voyez, au mois de décembre 1793. Et là, c'est déjà un tournant dans la guerre de Vendée. Voilà. Alors, j'en ai terminé ici avec ma présentation. Alors, quand même, on va s'intéresser quand même à ce qui fait l'originalité de la guerre de Vendée. Alors d'abord, donc je l'ai dit, elle s'inscrit dans un contexte politique dramatique. C'est la période de 1793-1794 que l'on appelle abusivement la terreur. Gardons cette expression qui est aujourd'hui en partie contestée par un certain nombre d'historiens. Rappelons également que la guerre de Vendée s'inscrit dans un nouveau régime politique qui est instauré à partir de septembre 1792 et qui est donc la République. La France donc expérimente un nouveau régime politique radicalement différent de celui qu'elle connaissait avant, la monarchie constitutionnelle et avant la monarchie absolue. Alors vous savez que cette période est dominée par l'affrontement de deux grandes forces politiques rivales. D'un côté les Montagnards, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la gauche et l'extrême gauche. De l'autre côté, les Girondins, qui seraient plutôt le centre ou le centre-gauche, avec entre ces deux forces qu'on appelait autrefois le marais, c'est-à-dire des révolutionnaires qui penchent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et surtout, hein, cette guerre, d'ailleurs comme la guerre des Camisards, s'inscrit dans un contexte international guerrier. L'affrontement, vous voyez, entre l'Angleterre, la Hollande, l'Autriche et la France. Donc, je l'ai dit, hein, la cause immédiate, contrairement à la guerre des Camisards, c'est cette levée d'hommes, de 300 000 hommes, et qui est marquée par des refus. C'est-à-dire que les paysans, hein, massivement dans cette région, refusent hein, d'être enrôlés dans l'armée républicaine. Donc, à partir de là, le soulèvement, vous voyez, se propage à travers la région que je vous ai montrée dans ces cartes. Alors, je passe sur les détails de la guerre événementielle, c'est extrêmement compliqué, mais intéressons-nous maintenant à la sociologie. Qui sont ces gens qui se soulèvent? Ce sont essentiellement, comme pour la guerre des Camisards, des paysans, et notamment des paysans pauvres, des artisans, et des ouvriers du textile, notamment dans la région de Cholet. Se rallient également à la révolte un certain nombre de domestiques, des hommes, mais également des femmes. Et autre élément important qui va marquer la guerre et surtout la postérité de la guerre, c'est le soulèvement d'un certain nombre de nobles, hein, généralement une petite noblesse appauvrie, et cette noblesse est soutenue par la noblesse qui a émigré aux frontières de la France, notamment en Allemagne ou en Angleterre ou encore en Hollande. Et parmi ces révoltés, on trouve également de nombreux prêtres réfractaires qui rejoignent en effet ces paysans en colère. Alors ces soulèvements, au début, qui éclatent à partir donc de mars 1793, ils sont mal réprimés. Pourquoi ils sont mal réprimés ? Parce que les troupes républicaines qui occupent les principales villes ou les principaux bourgs sont de médiocre qualité. Et puis surtout, ces troupes font face à des paysans qui ne mènent pas une guerre réglée, une guerre traditionnelle, mais une guerre comme l'ont mené les camisards, c'est-à-dire une guerre de guérilla. Alors au printemps 1793, le soulèvement se généralise. Et ces paysans qui se transforment en soldats remportent toute une série de victoires face aux forces répressives qui sont trop faibles, qui sont très souvent inorganisées ou mal organisées, et surtout, on l'oublie trop souvent, même encore aujourd'hui, qui sont divisées politiquement. Les commandants, les généraux, voire même les officiers secondaires sont partagés entre soutien aux montagnards, soutien aux girondins et à d'autres forces politiques, ce qui ne favorise pas, bien évidemment, la répression. Donc une armée républicaine inorganisée. Alors cette guerre, Jean-Clément Martin, qui est un des meilleurs spécialistes de cette guerre, le rappelle, ce n'est pas une guerre d'escarmouche, seulement une guerre d'escarmouche. Et la guerre des camisards, d'ailleurs, n'est pas seulement une guerre d'escarmouche. Jean-Clément Martin fait remarquer que pendant cette guerre de Vendée, on a des batailles frontales. Et vous savez que pendant la guerre des camisards, il y a eu également de grandes batailles frontales. Et d'ailleurs, la plupart des grandes batailles et des grands combats ne se sont pas déroulés dans la partie montagneuse des Cévennes, mais se sont déroulés précisément dans la plaine. Ce qui est intéressant également, c'est la disproportion des forces. Vous savez que les camisards, c'était à peu près 200 000 combattants, j'allais dire, à temps complet, hein, contre à peu près 25 000 à 35 000 soldats, qui étaient également aidés par des milices bourgeoises, et également qui étaient aidés par les milices catholiques, que l'on appelait les camisards blancs. Alors, en Vendée, au plus fort de la révolte, là, ce sont 20 000 à 40 000 hommes qui se sont soulevés, ce qui est quand même considérable. Vous voyez les chiffres, hein, entre les camisards et les Vendéens. Et cela représente à peu près 2 à 4 fois les forces républicaines qui étaient sur place. Alors la situation est telle au printemps 1793 que la Vendée, et ça c'est intéressant si on compare avec la guerre des camisards, la Vendée a été promue ennemi public numéro un. Et pour de nombreux républicains, cette guerre de Vendée, elle apparaît inexplicable. On ne comprend pas, hein, comment ces paysans peuvent tenir en échec les armées républicaines. Et vous me direz, lorsque la guerre des camisards a éclaté, en haut lieu, et même en Europe, et même du côté des protestants, on ne comprenait pas comment 2000 paysans en colère pouvaient tenir en échec les armées considérables de Louis XIV. Voilà. Donc, je passe rapidement sur les détails de la guerre, et on va s'intéresser uniquement à la répression qui a très largement marqué la mémoire collective régionale. Alors, deux exemples, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Tout d'abord, les noyades de Nantes, qui ont été décidées donc par le représentant en mission qui s'appelait Carrier, et des groupes extrémistes, c'est comme ça qu'on peut les désigner aujourd'hui, font plusieurs milliers de victimes, par fusillade essentiellement, mais on fusille des femmes, des enfants, des vieillards, etc., et on a noyé à peu près 2000 personnes dans la Loire. C'est quelque chose de considérable. À Angers, c'est pire encore, 2000 femmes, pour la plupart innocentes, ont été purement et simplement exécutées. Hein. Uniquement, elles ont été condamnées, fusillées, pour avoir assisté à des messes de prêtres réfractaires. Deuxième exemple, et vous verrez que on se rapproche également, et on peut comparer avec la guerre des camisards. Deuxième exemple, à partir de janvier 1794, le général Turot crée et envoie ce qu'on appelle à l'époque des colonnes infernales, plus exactement des colonnes incendiaires, Et vous le savez, les Cévennes, entre le mois de septembre, plus exactement octobre et décembre 1793, une partie des Cévennes ont été incendiées par les milices et l'armée du roi. Donc le général Turot, qu'est-ce qu'il mène? Une politique de la terre brûlée, on incendie les villages, on viole et on dépece des femmes et des enfants, et ce sont des tueries généralisées. Alors cette répression, elle relance la guerre, je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails événementiels, et à partir de cette période-là, c'est essentiellement Charette et Stofflet, dont j'ai parlé, qui sont les principaux meneurs de cette guerre de Vendée. Voilà. Et elle s'achève par leur exécution en 1796. Alors, si on fait le bilan de cette guerre, eh bien, on estime aujourd'hui à 200 000 victimes, aussi bien républicaines que vendéennes, qui ont disparu durant cette guerre de Vendée. En aucun cas, alors là, je ne sais pas si à Cholet, en mois de juin prochain, je pourrais le dire, mais enfin, oui, je le dirai quand même, je ne m'interdis jamais rien, en aucun cas, on ne peut parler de génocide. Alors, vous savez qu'il y a quelques historiens vendéens qui disent qu'il y a eu un véritable génocide en Vendée, que l'on a voulu délibérément exterminer un peuple. Bon, c'est abuser du mot génocide. Un historien américain, à propos des Cévennes, parle également de génocide. Il n'y a jamais eu de génocide, c'est-à-dire de volonté d'anéantir jusqu'au dernier homme un peuple pour des considérations, entre guillemets, ethniques et ou religieuses. Par contre, et c'est ça qui est important, c'est que ces violences de guerre qui ont eu lieu en Vendée à l'époque de la Révolution française, ces violences, elles rappellent en effet des dévastations ordinaires dans toutes les périodes de guerre, et elles rappellent également ce qui se passait sous l'Ancien Régime. Alors, je vais donner des exemples locaux. Les armées de Louis XIII, mais même l'armée de Rohan qui luttait contre Louis XIII, pratiquaient ce que l'on appelait des gastadours, c'est-à-dire que des bandes de soldats sillonnaient les campagnes autour de Nîmes, d'Alès, etc., mais c'était Montauban et d'autres régions. Et qu'est-ce qu'on faisait ces soldats? Que faisaient ces troupes? Que faisaient ces détachements? Eh bien, ils brûlaient les récoltes, ils brûlaient les masses, ils brûlaient les fermes, ils massacraient les paysans qui n'avaient pas pu se retirer dans les villes. Donc, en Vendée, finalement, est appliquée une politique qui est déjà bien ancienne, bien vieille. Prenons un deuxième exemple. En mars 1689, les armées de Louis XIV, dans le Palatinat, bon, aujourd'hui on appellerait ça l'Allemagne, c'est le fameux sac du Palatinat, on détruit des villages, on massacre des paysans, on détruit des bourgs, on détruit des granges, on détruit des greniers, on détruit des récoltes. Et vous savez que le sac du Palatinat a très fortement marqué les protestants qui étaient effarés, mais qui avaient déjà connu en partie cela avec les dragonnades. Et bien évidemment, les colonnes infernales ou incendiaires de Turot, eh bien, rappellent le grand brûlement des Cévennes dont je vous ai parlé entre octobre et décembre 1703. Donc, manifestement, voyez, la violence politique qui s'exerce à l'égard des Vendéens, elle n'est pas neuve, elle ne sort pas comme ça par hasard. Il y a une vieille tradition, voyez, de violence, et notamment de violence militaire. Et c'est ça qui est important, c'est que cette violence militaire, elle est conduite par un État ou par des États. L'État monarchique pour Louis XIV, un État absolutiste, l'État républicain naissant, pour la France. Enfin, dernier élément de cette guerre, eh bien, la mémoire de cette guerre, vous savez, est restée très forte jusqu'à aujourd'hui, et tout le monde a entendu parler de ce très beau spectacle. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, mais ceux qui y sont allés m'ont dit que c'était magnifique, le spectacle du Puy du Fou, qui d'ailleurs, au début, le Puy du Fou s'était centré sur la guerre de Vendée, et aujourd'hui, elle embrasse un sujet beaucoup plus large, celui de la guerre en général. Alors, troisième partie, pour conclure et pour faire la synthèse, le parallèle entre la guerre des Camisards et la guerre de Vendée. La guerre des Camisards, je le dis, je le répète, je le répéterai jusqu'à ma mort, les paysans cévenols, les protestants cévenols se sont levés, soulevés, se sont rebellés contre Louis XIV, hein, uniquement pour des raisons religieuses. Ils n'ont pas demandé la suppression des impôts, ils ne se sont pas révoltés contre des seigneurs, etc. Donc, une cause religieuse. En Vendée, contrairement à une idée reçue, encore aujourd'hui, parfois défendue par un certain nombre d'historiens, mais pas tous, les causes religieuses s'ajoutent à des causes sociales et politiques. Et de plus en plus, on considère que les causes sociales sont peut-être plus importantes que les causes religieuses. Mais le social et le religieux se sont fondus en Vendée. Et ça, c'est intéressant. Tandis qu'en Cévennes, hein, il n'y a pas eu, j'allais dire, de fusion entre des revendications politiques et des revendications religieuses ou des revendications fiscales. Il y a eu une tentative faite par un prêtre défroqué qui s'appelait Labourly. Lui, il a eu l'idée de soulever l'ensemble des catholiques et des protestants, et ça a été un échec. Et d'ailleurs, Abraham Mazel, en 1709, lorsqu'il va en Vivarais, il tente de soulever le Vivarais, et sur le conseil des Anglais et des Hollandais, on lui dit, ben, vous devriez rallier à votre cause les catholiques qui sont, comme les protestants, écrasés par les impôts. Échec total. Les catholiques ne se sont pas ralliés à Abraham Mazel. En Vendée, contrairement aux Cévennes, bien évidemment, les motivations politiques sont importantes. Au début, je vous le dis, c'est une révolte paysanne, avec des considérations étroitement paysannes, sociales. On se soulève contre le bourgeois qui s'est enrichi. On se soulève contre le bourg dans lequel vit une population plus aisée que dans les campagnes, etc. Les revendications politiques que l'on va appeler contre-révolutionnaires, royalistes, etc., se sont greffées après coup sur ces révoltes de paysans vendéens. Donc le social et l'économique, là, se rejoignent, et c'est vrai que la misère a pu pousser, en effet, ces Vendéens à se révolter. Par contre, pour les Cévennes, on ne peut pas dire que la misère, pourtant les Cévennes étaient pauvres, et alimenter la révolte. Certains, par exemple, avant la guerre des Camisards, vous savez qu'il y a eu une grande phase de prophétisme, certains ont dit, oui, les prophètes étaient des gens misérables, et donc ils ont trouvé leur salut dans le prophétisme. Non. La plupart des prophètes et des inspirés n'étaient pas des gens misérables, il y avait même des gens instruits, parfois même des bourgeois, qui sont devenus prophètes. La durée. Je vous l'ai dit, la guerre des Camisards dure relativement longtemps. La guerre de Vendée, c'est 1791 pour ses prémices, 1793 pour vraiment le début de la guerre, et en 1799, elle s'achève et les troubles perdurent, bien au-delà. En Cévennes, passé 1710, eh bien, une paix relative revient dans le pays. La violence. La violence, elle est intéressante. C'est vrai que les Camisards ont fait preuve de violence. Je ne parle pas, c'est connu, de la violence de l'État. En Vendée, les insurgés ont fait preuve de la même violence et on retrouve les mêmes atrocités à l'égard des représentants du pouvoir, de l'armée républicaine, des républicains, et même parfois, parce qu'il faut le savoir, en Vendée, il y avait des noyaux protestants. Parfois, les protestants ont été inquiétés par ces Vendéens catholiques, et un certain nombre d'ailleurs de protestants ont quitté la région et sont revenus après 1796 et 1799. Différence essentielle également. La guerre des Camisards a été conduite par des prophètes, par des gens qui se disaient inspirés. Les trois quarts des chefs Camisards ont été prophètes. En Vendée, le phénomène prophétique n'existe pas. Il n'existe pas. Par contre, hein, les chefs vendéens, les Charettes, etc., La Roche-Jacquelin et compagnie, ont été parfois des chefs charismatiques, c'est-à-dire qu'ils ont su, comme les chefs camisards, entraîner leurs hommes, mais ils ont su entraîner leurs hommes par leur courage, hein, par leur détermination, mais pas, j'allais dire, parce que l'esprit parlait en eux. Mais malgré tout, ici et là, chez les paysans vendéens, comme d'ailleurs chez les protestants camisards, il y a une dimension messianique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on espérait qu'un messie, c'est-à-dire un sauveur, viendrait secourir ces rebelles. Alors, vous savez que les camisards, et avant les camisards, on a espéré que Guillaume d'Orange, puis Guillaume III et d'autres princes protestants viendraient secourir les Cévenols. Et les Vendéens, également, ou une partie des Vendéens, ont espéré que les Anglais interviennent. Alors, tout le monde a entendu parler du débarquement de Quiberon. Hein, les Anglais débarquent avec des forces émigrées, mais c'est un échec. Mais vous voyez, cette dimension messianique, elle existe également pendant la guerre de Vendée. Et enfin, dernier élément, eh bien la mémoire. Vous savez que la mémoire camisarde a perduré jusqu'à aujourd'hui et perdure encore aujourd'hui, et que cette mémoire camisarde est un élément très important de l'identité cévenole. Eh bien, en Vendée, hein, la guerre de Vendée a été un élément fort. Cette mémoire a perduré jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de lire des livres sur la Vendée, de parcourir la Vendée via Internet, et vous verrez tous les lieux de mémoire également qui ponctuent l'espace vendéen. Et là, on peut faire un rapprochement avec les Cévennes. Dans les deux cas, c'est un peuple qui se soulève, hein, je l'ai dit, mais la différence essentielle, la noblesse ne joue aucun rôle dans la guerre des camisards, tandis que dans la guerre de Vendée, à partir de 1794, et surtout à partir de 1794, je vais y arriver, et même au-delà, les nobles ont joué un rôle important. Ils ont été, entre guillemets, les leaders naturels de cette révolte, et ils ont été également puissamment aidés par le clergé réfractaire. Je termine sur un point, le rôle de la bourgeoisie. Eh bien, vous le savez, la bourgeoisie protestante a été plus que réticente à l'égard de la révolte camisarde, l'a parfois condamnée, même certains bourgeois ont espéré mettre sur pied des milices pour combattre les camisards. Ça s'est produit surtout à partir de 1704. Par contre, en Vendée, là, il y a une originalité. La petite bourgeoisie, en Vendée, elle habite les villes, elle habite les bourgs, et cette petite bourgeoisie est bleue, c'est-à-dire qu'elle est républicaine. Et là, par contre, le choc a été particulièrement violent entre ces paysans qui avaient beaucoup de rancœur à l'égard de cette bourgeoisie qui s'était enrichie, qui avait profité des débuts de la Révolution française. Et là, si vous voulez, la guerre, elle est non seulement religieuse, elle est non seulement civile, elle est non seulement politique, mais c'est même la haine, hein, de classe qui oppose les paysans à cette bourgeoisie. Donc, le parallèle, il est quand même très difficile, parce qu'il faut se méfier en histoire des analogies. On ne peut pas comparer la guerre des camisards avec la guerre de Vendée et avec les guerres du XXe siècle. Il faut tenir compte du contexte. Et chaque contexte est très particulier. Alors, on peut faire des parallèles, on peut se dire, oui, cette violence est identique, etc. Mais il faut comprendre, hein, que la mentalité des gens, hein, entre la guerre des camisards et la guerre, et les guerres, j'allais dire, de l'époque révolutionnaire, des révoltes, etc., les mentalités ont considérablement changé entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Et si on compare encore avec des révoltes, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui m'intrigue, quand je regarde le Centrafrique, la République centrafricaine, quand on voit ces milices catholiques, parfois protestantes, qui massacrent leurs voisins protestants, parfois on se dit, ben, finalement, c'est les guerres de religion, c'est ce qui s'est passé ici en Cévennes lorsque catholiques et protestants s'entretuaient, et c'est peut-être ce qui se passait en Vendée. On peut faire ce parallèle. En réalité, hein, il faut savoir que les contextes sont radicalement différents. La psychologie des gens d'hier ou d'aujourd'hui, c'est un monde. Hein, c'est comme si on parlait de Mars et de la Terre. Ce sont des univers hein, très différents. On peut faire des rapprochements, c'est intellectuellement stimulant. On peut en tirer un certain nombre de conclusions. Mais on ne peut pas dire que le Vendéen, c'est une sorte de camisard catholique. Et on ne peut pas dire que l'anti-Séléka, etc., c'est une sorte de Vendéen ou de camisard. Je vous remercie.
Aussi comment chaque événement hein, est différent, que ce soit la guerre de Vendée ou la guerre de Cévennes, dans sa complexité sociale, économique pour la guerre de Vendée, sa complexité religieuse ici pour la guerre des Cévennes. Alors j'ai évidemment des questions, mais je pense que le public en a aussi certainement, donc on va laisser la primeur au public. Puisqu'il y a certainement des réactions suite à votre exposé.
Voilà, alors donc des questions. Monsieur, oui, je vous en prie.
Est-ce que justement le parallèle ne pourrait pas en quelque sorte être trouvé par la notion de mémoire, d'identité locale, d'ancrage, d'attachement au territoire ? Est-ce que dans les deux cas, le Vendéen est aussi attaché à son territoire que le Cévenol ?
Oui, de ce point de vue-là, c'est sûr qu'on a dans les deux cas un événement traumatique. La guerre des camisards a été un véritable traumatisme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de, on ne peut pas aujourd'hui, on n'a jamais pu dénombrer le nombre de victimes en Cévennes, enfin dans la zone concernée par la guerre des camisards. Plusieurs milliers de morts, ça c'est sûr. Les chiffres sont beaucoup plus fiables sur la Vendée. Bon, quoi qu'il en soit, qu'il y ait un mort ou qu'il y en ait 200 000, l'important, c'est ça, c'est le traumatisme. La guerre a traumatisé les Cévennes, la guerre a traumatisé la Vendée, et ça, c'est intéressant, le parallèle, là, il est très fort. On voit comment le traumatisme a nourri hein, une mémoire collective, des traditions orales qui se sont maintenues jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Là, voilà, le parallèle, là, vraiment. Mais ça, si vous voulez, ce parallèle, voire même... C'est plus qu'un parallèle, on peut dire, finalement, l'histoire se répète. Mais là, on est dans la dimension, non pas historique, mais anthropologique, parce que un peu partout dans le monde, chaque fois qu'il y a eu des traumatismes de ce type, c'est-à-dire des tentatives d'extermination, soit spirituelles, soit physiques, je prends le cas fameux de l'Amérique latine, lorsque les conquistadors, ils étaient même pas 500. Ils ont détruit des empires qui étaient... de l'ordre de plusieurs millions d'habitants. Bon, ils n'ont pas génocidé, hein. C'est le choc microbien qui a très souvent entraîné la disparition. Mais l'effondrement démographique de l'Amérique latine a provoqué également des traumatismes de ce type. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en Amérique latine, lors de la conquête espagnole, là, par contre, il y a eu des phénomènes prophétiques particulièrement importants, et avec des rapprochements que l'on peut faire avec la guerre des camisards. Et vous savez que dans l'Afrique coloniale noire, hein, le choc hein, de la culture européenne, même des religions catholiques, etc., a provoqué des phénomènes de ce type. Voilà. Alors donc, en effet, des gens qui étaient attachés à leur territoire, qui étaient attachés à ce qu'on appelait leur petite patrie, on a déjà ce mot-là pendant la guerre des camisards, eh bien, c'est vrai que ces gens-là ont été marqués, et ça explique cette tradition orale. Oui.
Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à un historien américain à propos de la définition du mot génocide. Quel est le regard des historiens étrangers sur la guerre de camisards ? Quelles ont été les conséquences de cette guerre et ce qu'on a pu en conclure? Merci.
Bon, alors d'abord, il y a peu d'historiens, j'allais dire anglo-saxons, qui se sont intéressés, enfin, qui aient produit des sommes ou des livres importants sur la guerre des Camisards. Donc ça, c'est un spécialiste américain des armées de Louis XIV qui, au détour d'un paragraphe sur les Camisards, parle de génocide. Bon, alors il faut s'entendre sur le mot génocide. D'abord, c'est une relecture. C'est comme si on regardait dans le rétroviseur, c'est-à-dire qu'on utilise le mot génocide en ayant en référence la Shoah. Bon. On ne peut pas dire qu'en Cévennes il y a génocide. D'abord, c'était personne ne pouvait penser à cela. On oblige les gens à adhérer à la religion du roi, on les réprime par la violence, par la prison, par tout ce que vous voulez, mais dans l'esprit des détenteurs du pouvoir, on n'avait pas décidé d'éliminer jusqu'au dernier homme les protestants cévenols. On voulait les convertir, mais pas les éliminer physiquement. Donc le terme génocide est inapproprié en ce qui concerne les Cévennes. La preuve en est, c'est que il y a quand même, nous sommes encore ici, un certain nombre de descendants des Camisards ou des protestants. Donc, si on nous avait éliminés, ça se saurait. Je ne serais pas là pour parler. En ce qui concerne la Vendée, vous savez qu'il y a une violente polémique qui perdure encore sur Internet entre un historien qui s'appelle Reynald Secher et notamment Jean-Clément Martin, qui est un historien. Alors lui défend partout dans ses livres et sur Internet. Il dit oui, il y a eu un génocide, c'est-à-dire qu'on a voulu éliminer totalement le peuple vendéen. D'abord, il faudrait s'entendre sur le peuple vendéen. Bon, j'ai été très vite. Le peuple vendéen, ça c'est une construction intellectuelle. Il y a le département de la Vendée, mais vous avez bien vu que les Vendéens, c'est autre chose que les habitants de la Vendée. Bon, passons sur les détails, c'est assez complexe. Alors lui dit, il y a eu génocide, il défend cette thèse, certains d'ailleurs s'y rallient, et il ajoute qu'il y a eu même mémoricide, c'est-à-dire il dit, dès cette époque-là, dès 1793-94, on a voulu nier les massacres qui se sont produits, et il va très loin, il dit même jusque aujourd'hui, dans les manuels scolaires, etc., on fait le silence sur la Vendée. C'est faux, hein. Moi j'ai été très longtemps enseignant d'histoire-géographie, et j'ai raconté ce qui se passait en Vendée. Mais là encore, alors moi je fais partie de ces historiens, il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas eu de tentative délibérée d'anéantir ce qu'on appelle faussement d'ailleurs le peuple vendéen. Donc rien à voir avec la Shoah et avec l'entreprise nazie qui, elle, est une entreprise d'extermination systématique. Sur des considérations à la fois religieuses et ethniques. Mais les Vendéens n'étaient pas décrits, même par les révolutionnaires, même par Robespierre, etc., comme étant, j'allais dire, un peuple ayant telle ou telle caractéristique physique, religieuse, etc. On luttait contre des rebelles, on luttait contre des paysans qui se soulevaient contre le régime. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui. Oh. Comment ont-ils aperçu ça?
Je vous dis, à l'exception de cet historien, il s'appelle Lynn, je ne me rappelle plus son nom, les autres historiens reprennent un peu tout ce que les historiens ont dit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Autre question? Oui. Tout à fait.
Ce qui m'a toujours frappé dans ces guerres, c'est l'acharnement. Les choses, vous avez parlé des noyades de Carrier, il fallait un homme et une femme, et les limotés sont noyés dans la Loire. C'est quand même excessif.
Alors, ce que vous dites est exact. En effet, ce sont des guerres asymétriques. Des guerres, d'ailleurs, dont on, parfois jusqu'à une date récente, dont on disait qu'elles étaient favorisées par le relief. Alors, c'est vrai, on peut dire, tiens, le relief Cévenol accidenté bien favorise la guérilla. Mais je vous dis, la plupart des combats se sont déroulés dans la plaine hein, et à terrain, en terrain découvert. Et pour la Vendée, on dit, oui, ben, finalement, le bocage... Hein, permettait aux paysans de se cacher dans les chemins creux, etc. Alors c'est vrai que le bocage a favorisé également les Vendéens, comme peut-être ici le relief, mais l'essentiel, les grands combats se sont livrés à terrain découvert. Donc, si vous voulez, le relief n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, bien évidemment, dans le combat asymétrique, c'est la volonté de minorité, si vous voulez, de se défendre coûte que coûte, hein, et quelle que soit la disproportion des forces. Ça, c'est intéressant, parce que vous savez que ce qui animait ces prophètes camisards et tous les camisards qui les suivaient, c'est une volonté farouche, si vous voulez, de défendre hein, la religion des ancêtres que Louis XIV voulait réduire, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire, entre guillemets, anéantir. Bien, on retrouve cette même détermination farouche chez les Vendéens. Mais je vous l'ai dit, chez les Vendéens, même s'il y a une dimension religieuse, elle est incontestable, il y a également une dimension sociale. Hein. Je vous l'ai dit, faudrait que je fasse un très long exposé, il y a cette haine hein, qui oppose le paysan au bourgeois. Enfin, quand je dis le bourgeois, c'est le paysan qui habite le bocage, à l'artisan qui habite la ville, au petit bourgeois qui s'est enrichi, etc. Donc il y a ces haines sociales, vous voyez, qui se rajoutent, vous voyez, à ces considérations religieuses. Alors en effet, ce sont des guerres asymétriques. Et ce qui étonne toujours, c'est pourquoi elles durent. Hein, pourquoi elles durent. Et là, il y a une idée intéressante. Parce que nous sommes au temps de Louis XIV pour la guerre des Camisards, et nous sommes au moment où l'État monarchique se renforce. Mais l'État monarchique hein, n'est pas aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Il est quand même relativement faible. Alors même si le roi a une volonté absolutiste, même si Baville applique les ordres du roi, etc., l'administration n'est pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une administration très forte. Nous avons une police très forte. Nous avons une gendarmerie, etc., qui maille le territoire. À cette époque-là, l'État, il est relativement faible. Et c'est parce que l'État est relativement faible que, du côté des forces de répression, on assiste, en effet, à ces exactions. C'est-à-dire que, finalement, les officiers royaux ont peine à se faire obéir, et ce qui explique, pendant la guerre des Camisards, eh bien, des détachements vont piller les paysans. Et d'ailleurs, ils ne regardent même pas s'ils sont catholiques ou protestants, etc. En Vendée, ce qui explique ce déchaînement de violence, je vous l'ai dit, c'est la division des républicains, c'est l'inorganisation des forces répressives, mais également c'est l'absence d'État. Parce que contrairement à ce que certains disent, l'armée républicaine et même les républicains locaux, ou une partie de l'armée républicaine, a dénoncé ces exactions. Il y a même des officiers qui ont empêché leurs soldats de se conduire, vous voyez, comme des massacreurs, etc. Une partie des républicains qui habitaient la Vendée essayaient de faire comprendre à Paris hein, qu'il fallait changer de méthode, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'absence d'État ou la déliquescence de l'État qui permet, en effet, à des détachements extrémistes, à des extrémistes, de tous bords d'ailleurs, de se livrer à des violences sans nom. Et puis, il faut quand même songer hein, que la France, elle est assiégée, la France est attaquée, et que pour le pouvoir central hein, à Paris, c'est une question de vie ou de mort. Sans compter que ces gens du pouvoir sont extrêmement divisés entre eux en diverses tendances rivales. Il faut voir le nombre d'officiers qui sont venus en Vendée pour faire une carrière politique et qui ont outrepassé les ordres qui étaient donnés à Paris. Et même en Cévennes, je ne pense pas, pareil, on dit oui, bon, Louis XIV... à signer les textes qui permettaient la destruction puis le brûlement des Cévennes. Je ne suis pas sûr qu'il ait étaient véritablement au fait de ce qui se passait. Et même pendant le brûlement des Cévennes, il y a des officiers hein, qui n'étaient pas partisans de la manière forte, qui se disaient ben, finalement ça va prolonger la révolte, et ils ne se sont pas trompés. Il faut savoir que pendant le brûlement des Cévennes, ça on l'oublie trop souvent, même les protestants étaient divisés, même la population protestante ne comprenait pas pourquoi les camisards n'intervenaient pas contre ces, j'allais dire presque colonnes infernales d'avant l'heure, hein, qui étaient dispersées à travers le territoire. Les camisards auraient pu très bien intervenir et les attaquer. Donc, vous voyez, les choses sont extrêmement complexes. Oui ?
C'est pas une question que je vous posais, mais vous remerciez. Je suis vendéen, je suis chevé.
Nul n'est parfait.
J'ai tellement entendu dire que la guerre de Vendée était d'abord une guerre de religion, que là, je suis satisfait que vous ayez replacé les théologies, les causes de ce soulèvement vendéen à sa place. L'armée royale et catholique, d'accord, mais au départ, c'est pas ça. Ouais. Donc ça, je suis très content. J'espère que c'est une idée qui se diffuse.
J'en doute un peu, mais bon. Nul n'est prophète en son pays, et encore moins en Vendée. Alors, comme Franck m'invite au mois de juin prochain à faire une conférence à Cholet, je vais m'habiller avec un habit ignifugé, parce que je ne voudrais pas terminer comme Jeanne d'Arc.
Je vais vous dire que à Cholet, si vous dites qu'il n'y a pas eu de génocide, vous allez certainement vous attirer de l'opposition.
Ah ben...
Renac, c'est là, séché, et là-bas, pour veiller au grain. Et puis, d'ailleurs, les gens sont comme ça. 200 000 morts, en Syrie, il n'y en a encore que 130 000. La mémoire orale dans mon village dit qu'on a retrouvé les cadavres de 90 personnes qui portent mon nom dans un village, en 93. Donc, on s'en souvient, inutile de dire qu'on s'en souvient. Et c'est, les nobles là-dedans n'ont pas joué un grand rôle. C'est des hobereaux qu'on a été chercher pour leur petite expérience militaire.
Militaire, oui, très souvent. Oui.
Caserne. Parce que, en fait, c'est Catineau qui a déclenché tout. Catineau, ouais. Habitait à 5 km de chez moi, c'est un colporteur. Stofflet. Stofflet est garde-chasse.
Garde-chasse, oui.
Dans la commune de Maulévrier, dont est originaire notre actuel Premier ministre.
Ouais.
Et Stofflet a été aussi très, très actif.
Ouais.
Autant que la Roche-Jacquelin. Ouais. Enfin, j'aurais beaucoup à dire, mais je suis très content de l'avoir entendu.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir, donc voilà. Autre question. Pas de questions ? Plus de questions ? Ah oui, une question.
Une dernière, faire un peu parallèle avec la croisade contre les cathares. Est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes schémas ?
Oh non, écoutez. D'abord, je ne vais pas me lancer contre les cathares. Les cathares ont dit énorme. Bon. Je vais, sinon, quelle heure il est ? Oui, il faut que je rentre avec Saint-Provence. Bon, on commet beaucoup d'erreurs. D'abord, on ne comprend pas ou mal, malgré d'excellentes études, sur ce que sont les cathares. Alors, je rappelle bon, très rapidement hein, que les cathares, ça représentait à peine 10% de la population occitane à l'époque. C'était vraiment une religion, entre guillemets, élitiste, qui concernait des petits noyaux, etc., dispersés dans cette immense Occitanie. Et ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, le catharisme, contrairement à ce qu'on dit encore, se situe au cœur de dissidence chrétienne, je dis bien chrétienne, n'appelons pas notre escousse le manichéisme, etc. Non, c'est inscrit même dans les gènes du christianisme. Et enfin, en ce qui concerne la répression cathare, c'est vrai qu'on peut faire des parallèles, etc. Mais là encore, cette répression renvoie à des causes religieuses, à des causes sociales, à des causes politiques. Et il n'y a pas eu, en ce qui concerne le catharisme, de guerre ou de soulèvement armé, hein, comme il y en a eu en Cévennes ou en Vendée. Et même, vous voyez, bon... En 45 minutes, une heure, on ne peut pas tout faire. Même le terme de guerre, vous voyez, on dit guerre des camisards, on dit guerre de Vendée. Ces termes sont inappropriés, ce sont des étiquettes commodes pour tenter de décrire un phénomène. La guerre des Camisards, je dirais plutôt que c'est une révolte populaire qui a cette originalité dont j'ai parlé. Et la guerre de Vendée également, c'est une révolte populaire qui a été baptisée guerre pour des raisons politiques. C'est finalement, quand les républicains se sont dit, mais quand même ces paysans, 89, ils ont tout. Hein. On abolit les dîmes, on abolit les redevances seigneuriales, etc. Et ces couillons se révoltent. Alors on ne comprend pas comment ces gens-là, qui a priori seraient les bénéficiaires de la révolution, se révoltent contre les révolutionnaires. Et à partir du moment, cette révolte populaire, pour des considérations politiques et de lutte politique interne au sein de la Convention, donc de la République naissante, on crée ce concept de guerre pour décrire plus exactement une révolte populaire qui n'est même pas contre-révolutionnaire, qui va devenir contre-révolutionnaire, mais on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont anti-révolutionnaires et non pas contre-révolutionnaire, ce qui est différent. Être contre-révolutionnaire, ça veut dire remettre en cause, j'allais dire, tous les acquis de la Révolution. Être anti-révolutionnaire, pour ces paysans vendéens, au sens très large du terme, c'est être en désaccord avec des situations sociales, politiques, etc., que l'on considère injustes, d'où ces haines civiles qui opposent ces bourgs et ces campagnes, etc. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, dames, vous êtes très gentils, très sages. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée.